Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
À suivre le petit déjeuner de l'actu avec Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, Yves de Cardrel, vos appels 0826-300-300. En attendant, qu'est-ce qui fait parler ce matin? C'est la revue de presse avec Benjamin Glaise.
Oui, Benjamin, alors beaucoup de une de journaux avec un espoir en trois étapes.
Hein. Oui, c'est la formule notamment retenue par La Montagne, le populaire du centre, après l'allocution d'Emmanuel Macron. En photo, un commerçant qui relève le rideau métallique de son magasin de vêtements, car tous les commerces non essentiels pourront effectivement rouvrir dès samedi. Les déplacements, eux, seront désormais autorisés pour une durée de 3 heures et dans un rayon de 20 km. Pour la levée du confinement, si tout se passe bien, il faudra attendre le 15 décembre, date de la deuxième étape. Un couvre-feu devrait alors être instauré de 21h à 7h, exception faite des 24 et 31 décembre. Enfin, en ce qui concerne les restaurants ou encore les salles de sport, il faudra cette fois-ci attendre la troisième étape au 20 janvier avec peut-être un couvre-feu décalé. Au final, c'est une sortie en trois temps, comme le résume Sud-Ouest, tandis que La Montagne et le populaire du centre nous rappellent par ailleurs les précisions apportées par le chef de l'État sur le vaccin. La vaccination ne sera pas obligatoire. Les personnes les plus fragiles pourraient en bénéficier dès la fin décembre ou plutôt janvier, comme l'indique pour sa part le Parisien aujourd'hui en France.
Ah oui, et ce que dit le Figaro, c'est la France respire un peu, quoi.
Oui, un peu d'esprit positif, en tout cas pour le Figaro, qui souligne cependant la colère des restaurateurs qui devront encore attendre deux mois. Le Figaro rappelle aussi que la culture rêve de la fin du tunnel. Mais effectivement, de nombreux journaux veulent d'abord retenir les bonnes nouvelles, les premiers cadeaux, comme les nomme Midi Libre, ce qui fait dire au Petit Bleu d'Agen qu'il y a comme un air de fête à un mois de Noël. Et alors, je vous parlais de la culture, et bien ce clin d'œil en une de l'Indépendant catalan avec ce titre, le rideau se lève samedi. Alors, il ne s'agit pas là du rideau du théâtre, mais bien des rideaux de fer des commerces qui pourront donc être relevés de nouveau ce week-end.
Oui, et on enchaîne avec l'hommage à Christophe Dominici en une de l'Équipe notamment, et puis de beaucoup d'autres journaux.
Hein. Oui, alors, déjà de l'Équipe, oui, avec sa photo en pleine page, hein, dans le maillot du 15 de France, les yeux au ciel, et ses dates, hein, 1972-2020. Christophe Dominici avait 48 ans lorsqu'il a été victime hier de cette chute mortelle dans le parc de Saint-Cloud. L'Équipe écrit que la mort de l'ancien international, joueur brillant et homme ultra sensible, laisse le monde orphelin de ses contre-pieds sur le terrain, comme devant les micros. Parmi les réactions dans l'Équipe ce matin, celle de Max Guasini, l'ancien patron du Stade français. Je disais souvent aux autres joueurs, c'est mon joueur préféré, Christophe était différent des eaux, très affectueux. Ce qui s'est produit est inimaginable. Sud-Ouest évoque aussi, hein, pour sa part, ce deuil avec sa une sur cette disparition tragique, soulignant l'émotion après cette disparition brutale, pendant que la Dépêche du Midi rend hommage à celui qui était une légende de l'Ovalie.
Oui, en une aussi de beaucoup de journaux en région, bien sûr, comme vous l'avez dit, et notamment Var Matin. Denis Carreau est avec nous, directeur des rédactions du groupe Nice Matin et Var Matin. Bonjour Denis.
Bonjour Patrick.
Parce que, évidemment, Christophe Dominici, c'est l'enfant en fait, de Toulon. Il a joué au RCT avant à La Valette et Solliès-Pont, hein, cette petite ville qui est juste avant Toulon. Et évidemment, vous y revenez, bien sûr, ce matin dans Var Matin.
Hein. Bien sûr, ici, effectivement, c'est le minot de Solliès-Pont. Il est à la une de Nice ce matin. Il nous regarde droit dans les yeux, Christophe Dominici. Ce génial doudingue du rugby français. Il a porté, vous le disiez, le maillot du rugby club toulonnais de 93 à 97 avant de rejoindre le Stade français et de partir à la conquête des titres de champion de France avant de devenir une star inoubliable après son match contre les Blacks le 31 octobre 99. Alors il laisse le monde du rugby inconsolable. Ils sont nombreux à réagir et à se souvenir, hein, dans les colonnes de Var Matin, se souvenir de ce joueur génial et attachant, entier, fragile, qui manque déjà à tout le monde.
Oui, ouais, c'est vrai. Et il était parti un peu sur un coup de colère quand même de Toulon. Je ne sais pas si vous y revenez forcément, Denis Carreau, un peu, mais parce qu'il voulait aller vers le rugby plus professionnel, il avait demandé des augmentations de salaire et c'est comme ça qu'il est arrivé en fait au Stade français après avoir effectué ses débuts dans la région. Voilà, c'est à lire en tout cas dans Var Matin. Merci Denis Carreau avec les témoignages de joueurs et de personnes qui l'ont connu à lire ce matin dans Var Matin ou à retrouver sur vos sites internet. Merci hein, Denis d'avoir été en ligne avec nous ce matin.
On y reviendra. Bien sûr, on y reviendra après 9h. En attendant, c'est le petit déjeuner de l'actu. Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, Yves de Cardrel et vos appels. Hein, 0826-300-300.
Oui, d'ailleurs, si vous voulez témoigner sur Christophe Dominici, vous nous appelez 0826-300-300. Vous pourrez dialoguer d'ailleurs aussi avec Daniel Herrero et François Trio qui seront avec nous tout à l'heure. Avant, évidemment, de revenir aussi sur les commerces et les suites du confinement. On revient avec vous, Arlette Chabot et Elisabeth Lévy, Yves de Cardrel, sur l'intervention du président de la République hier. Alors, vous aviez des regards un peu différents hein, les uns les autres. Et heureusement, c'est ça qui fait la richesse et de la diversité. Vous, Arlette, vous l'avez quand même... Il y a un peu de perspective dans ce qu'il a essayé de faire, quand même, le chef de l'État hier soir. Hein, ce que vous disiez, en fait, tout à l'heure. Quoi.
Forcément, y a un calendrier. On n'arrête pas de le répéter. Trois étapes, c'est pas une surprise. Hein, ce qui était attendu, on était déjà préparé, effectivement. Oui, ça donne quand même de la perspective, même pour des restaurateurs. Bon, horizon, espoir, janvier, il y a une date. Alors évidemment, il y a la déception, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a les difficultés. Il faut vraiment que Bercy soit à la hauteur et que les aides arrivent. Il y a des propositions du président de la République, on l'a entendu hier, pour effectivement les soutenir financièrement. C'est quand même un horizon parce qu'on était dans le flou absolu. Alors moi, je crois qu'honnêtement, et j'entendais même d'ailleurs un restaurateur dire hier qu'il n'aimerait pas être à la place d'Emmanuel Macron. Ouais. Et faire des choix économie, sanitaire, quel secteur on ouvre, quel secteur on ferme, à quel moment. C'est très difficile d'ajuster. Le gouvernement a fait une énorme bêtise avec la fermeture des commerces. Bon, il corrige. C'est difficile d'équilibrer, mais là, je trouve quand même qu'il y a un effort, même s'il reste des incohérences.
Oui,
les 30 dans l'église, partout, même si c'est une chapelle ou une basilique, c'est pareil.
Bah oui,
effectivement, c'est un peu étrange. Il y a quand même un effort, pour donner de la visibilité aux Français, pour les sortir du marasme et de la morosité perpétuelle.
Elisabeth Lévy et Yves de Cardrel.
Moi, ce que je trouve intéressant, justement, dans ce que dit Arlette, c'est qu'effectivement, peut-être que chacun d'entre nous ne fait pas les deux, mais dans l'ensemble, on fait les deux. C'est-à-dire à la fois se mettre à la place de ceux qui nous gouvernent, ce que vient de faire Arlette, et à la raison de le rappeler, si vous voulez, et en même temps de le regarder de l'extérieur, hein, c'est aussi notre boulot, et de voir les absurdités.
Non,
moi, déjà sur la forme et sur le, disons, sur le niveau d'intervention, ce qui me frappe, c'est ce que m'a écrit un de mes auteurs hier soir, c'est quand même que le président de la 5e puissance mondiale me dit d'aérer ma chambre. Ça, j'en ai vraiment ras-le-bol.
Ouais.
J'en ai marre. Si vous voulez, on a un président, il parle trop, il parle de tout, il parle de petits détails. Je trouve que... Il devrait quand même se partager un peu mieux les choses, peut-être avec le Premier ministre.
Ah bah il l'a fait, Castaner c'est... aussi, mais c'est vrai que oui, le chef
Castaner,
de l'État à chaque fois.
Non, mais si vous voulez, non, parce qu'en fait, il parle de trucs qui relèvent vraiment du Premier ministre, voire de conseiller technique. Il rentre dans des détails qui n'ont pas lieu d'être. Et puis, il y a toujours ce langage un peu paternel. Il va falloir qu'on voit des psychologues. Un peu plus de... Et alors, l'autre chose, et là, je pense que je vais rejoindre Yves, si vous voulez, c'est que, bon, certes, il y a un calendrier, mais on voit déjà se profiler, ça, évidemment, ça ne va pas se corriger en une semaine, la dinguerie administrative dans laquelle on est depuis des semaines et des mois. Si vous voulez. Alors, par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé le coup des horodateurs.
Mais
est-ce que vous imaginez maintenant que tous les patrons de théâtre sont en train de cinéma sont en train de courir après des gens pour... Tout ça est complètement...
Yves de Cardrel, alors sur un plan économique, notamment cette perspective là pour les restaurateurs de 20% du chiffre d'affaires annuel, éventuellement au lieu des 10 000, ils pourront choisir. Alors d'ailleurs, j'ai pas bien compris si ce sera 20% du chiffre d'affaires annuel en fonction de certains mois ou pas, ou si ça va être sur l'année...
Non, c'est 20% du chiffre d'affaires annuel, plafonné à 100 000 euros, sachant que le chiffre d'affaires, c'est donc l'ensemble des recettes d'un restaurant. Donc ça veut dire que il y a quand même 80% des recettes qui sont pas indemnisées. Certes, en contrepartie, il y a un certain nombre de charges qui ont été basculées sur l'État avec le chômage partiel, la prise en compte du salaire des employés des restaurants par l'État. Mais pour ces restaurants, les charges de loyer, les charges un certain nombre de charges fixes sont très importantes. Donc c'est
non, mais il va y avoir en plus probablement des détails quoi pour savoir si à travers cet été ce qui s'est passé certains ont atteint déjà ces 20% peut-être,
c'est-à-dire
non
que c'est ça encore, qui est... Encore une fois, vous parliez tout à l'heure où Elisabeth parlait de dinguerie administrative, mais on passe de dinguerie administrative à une autre dinguerie administrative quoi. On passe d'usine à gaz à usine à gaz et c'est normal parce que quand on a commencé à faire une bêtise avec les fermetures qui n'avaient pas forcément lieu d'être. Comme on l'a vu avec les commerces essentiels ou non essentiels, on va de bêtise en bêtise et ça aboutit à cette histoire du Black Friday la semaine dernière, etc. Et on va à cette jauge de 30 personnes dans les églises. Quoi, c'est un peu consubstantiel à ce Léviathan qu'est l'administration française.
Oui. Bon, Arlette Chabot, en même temps, alors sur un plan politique, là, il a fait ses annonces. Maintenant, ça va être Jean Castex qui va mettre tout ça en fait en musique. Est-ce que après cet éclairage donné par le chef de l'État, le gouvernement, c'est-à-dire à la fois Matignon et puis Bercy, on savait qu'il y avait des tiraillements. Est-ce que là, ils vont se ranger tous derrière le chef de l'État pour parler d'une seule voix? Parce que c'est ce qui amène à une forme de cacophonie, quoi, aussi. Hein,
oui, une cacophonie, parce qu'il y a effectivement, on le sait bien, et c'est normal, le débat entre, on l'a dit 10 fois, le ministère de la Santé qui dit « Oh là là, stop, regardez le taux d'occupation des lits de réanimation, attention, stop », dit Bruno Le Maire en face, les petits commerçants vont mourir, etc. Donc, il y a du débat. Là, il y a quand même, pour l'instant, il y a une ligne. Alors, encore une fois, c'est de la navigation à 15 jours. Hein. On se revoit dans 15 jours, on évalue et c'est, je pense que c'est normal. On peut là, quand même, encore une fois, là, c'est la dernière indulgence qu'on peut avoir. Parce que tous les gouvernements européens sont effectivement dans la même situation. Et quand on dit, par exemple, regardez ce qui se passe en Allemagne, Angela Merkel, elle négocie avec les Länder, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Elle aurait aimé imposer des mesures plus fortes, ils lui ont dit non. Donc, tout ça est quand même extrêmement difficile à ajuster.
Ouais. Elisabeth,
Et après, tout le monde doit marcher quand même du même pied, effectivement.
Oui, c'est vrai. Elisabeth, oui.
Mais ça donne un peu... moi, c'est sur le plan sanitaire aussi qu'on se pose des questions. Parce qu'en gros, il nous dit, on a eu raison, tout ce qu'on a fait était bien. Et alors là, je pose juste la question, l'impression que ça donne, c'est qu'on fait un peu d'organiser des mystères qui nous dépassent, si vous voulez. La deuxième vague, il nous a annoncé un peu la fin de la deuxième vague. Je ne sais pas si vous avez été convaincu, vous, par le fait que c'est notre mobilisation générale qui a abouti à la faire baisser. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de calendrier partout.
Il y a un peu des deux. Vous avez raison.
Donc, si vous voulez, tout le vocabulaire très volontariste, nous avons fait, nous allons faire. Alors, puis la deuxième chose, c'est qu'on l'a bien vu. En fait, je crois qu'on est un peu blasé, si vous voulez, de ces annonces permanentes, etc. Déjà, même sur le plan sanitaire, ils annoncent des stratégies qu'après, on ne peut pas mettre en œuvre. Donc, en fait... moi, j'attends de voir comment ils vont faire, y compris malgré toutes les explications d'Yves. J'ai toujours pas complètement compris l'histoire du chiffre d'affaires des restaurants. Et comme vous allez voir que quand Castex va parler, alors là, ça va être encore une mine de questions, d'incompréhension et de donc c'est permanent. Enfin, on a une espèce de rythme permanent, de flux, de règlements, de mesures, de.
C'est pas simple. Même si Marine Le Pen a été très critique en fait ce matin, mais quand je lui ai posé la question aussi quand elle était invitée, et vous feriez quoi? Bon, elle a eu un petit moment de flottement, même si elle dit que la stratégie n'a pas été la bonne. D'ailleurs, je vous conseille de la réécouter en podcast, hein, Marine Le Pen qui était notre invitée tout à l'heure à 7h40. Merci Elisabeth, Arlette, Yves de Cardrel. Dans un instant, on va être en direct avec toute la France pour parler de la disparition d'abord de Christophe Dominici. Là, j'aimerais vous entendre bien sûr au 0826 300. 300. Et puis ensuite, on va aller dans les Pyrénées, on va aller chez les petits commerçants, avec certains qui ont de l'espoir. D'autres, évidemment, c'est la douche froide. Au contraire,
les stations de ski.
Oui, absolument. On va être en ligne avec eux. Et puis un témoignage bouleversant. Là, restez avec nous aussi tout à l'heure à 9h30, avec ma famille avant tout. Ouais, une famille qui a vécu.
Descente aux enfers.
Aux enfers, parce que, évidemment, deux, trois petites choses qui ne vont plus, on n'a plus de boulot, etc. Mais c'est ça qui est intéressant. Ils s'en sont sortis. Et il nous racontera, il sera avec nous, Julien Luxet, tout à l'heure à 9h30.
Restez là, c'est le Grand Matin Sud Radio, tout de suite le journal de 9h.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile Doménibus.
Il est 9h09, merci d'être avec nous. Et il était impossible de ne pas rendre hommage ce matin à Christophe Dominici pour en parler avec nous, Daniel Herrero et François Trio. Bonjour,
oui, absolument. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, ami du jour, bonjour.
Oui, merci d'être avec nous. Dans un instant, on va revenir aussi sur les annonces d'Emmanuel Macron avec beaucoup de commerçants. On sera en direct aussi des Pyrénées. Daniel Herrero, tout le monde a été effondré, choqué, le monde du rugby, mais même au-delà, par ce qui est arrivé hier à Christophe Dominici. Vous l'avez connu, c'était l'un des feux follets de Toulon, où il a commencé en fait sa carrière. Quel joueur était-il en fait pour vous, et quelle personnalité vous retenez en fait de Christophe Dominici?
Effectivement, la douleur est grande, la percussion émotionnelle, la tristesse dans un premier temps, la souffrance incontestablement qui accompagne cette tristesse, parce que la fin brutale, impensée quoi, de Christophe Dominici, nous blesse, nous altère, et évidemment le mode en même temps de conclusion de son espace de vie nous trouble. Il c'était un enfant de mon village, quoi. Christophe Dominici, il est de Toulon, il était du périmètre toulonnais. Ouais. C'était aussi un vrai enfant de ma balle ovale. Il a grandi dans ce périmètre. Il avait très tôt un certain nombre d'attributs presque naturels, je dirais. Je ne veux pas dire génétiques, mais presque naturels, qui fait qu'il pouvait s'orienter vers une pratique sportive comme celle du rugby. Il n'était pas titulaire d'un très gros gabarit, c'était même plutôt un petit gabarit, mais il avait l'attribut de l'explosivité comme étant naturelle. Il était pétaradant dans quasiment tout ce qu'il faisait, quoi. Oui. Et en même temps, sur le plan presque psychologique, ou sur le plan de sa nature affective, et il était d'une incroyable agressivité, ou tout au moins d'une incroyable explosivité. Il avait un trait de vivacité permanente. C'est un homme de feu, c'est un homme de flamme, plus exactement, quoi, tu vois. Et très tôt, dans le périmètre toulonnais, il va s'affirmer. Il a entre de 15 ans et 20 ans, quoi. Et c'est là, il commence assez tard au domaine en rugby, mais il va s'affirmer comme un joueur, je dirais, ou pour ne pas dire un humain, assez rare. Oui. Il a le feu dans la guibole, il a l'esprit libre, et qui plus est, il est un peu sauvageon. Ouais. Tu vois, il est.
Il avait tous les attributs du rugby, quoi, Daniel. Quoi.
Ouais, il avait les attributs qui peuvent donner à la performance rugbyistique un haut niveau, quoi, tu vois. Ouais. Parce que, donc, sans un très gros gabarit, il avait la rarissime force de la vitesse et de l'explosion. Ce qui va, par exemple, donner un jeu. Alors, purement technique de finisseur, quoi. C'était celui qui, quand il prenait la balle, à quelque moment que ce soit du match et à quelque instant, à quelque lieu que ce soit sur le stade, il générait une émotion, tu vois. Vite, il y avait quelque chose à la fois de libre, sauvage, de guerrier.
Oui, complètement.
De guerrier, il avait cette nature-là.
François Trio est avec nous aussi. François qui anime avec vous, Daniel, les week-ends en fait rugby sur Sud Radio. Bonjour François.
Bonjour.
Donc évidemment, au Stade Français, on était effondré hier, comme dans l'ensemble en fait du monde du rugby, etc. Par cette nouvelle. Il y a de la surprise, mais en même temps de l'effroi. Mais on savait que c'était un personnage, une personnalité tourmentée, non ?
Oui, il y avait des fragilités. Alors moi, ce matin, j'ai pas envie d'intervenir, soit comme un ami proche que je n'étais pas, mais en tout cas, à chaque fois, c'était toujours il y avait toujours une passion, une générosité dans l'échange avec Christophe, qui était assez sympa. Mais j'ai plutôt envie de témoigner aussi de la part du Stade Français. Moi, je suis un élu au comité directeur du Stade Omnisport. C'est 12 000 membres, et aujourd'hui, c'est toute une famille qui pleure, parce que vous savez, dans ce club, clubs, il y a l'équipe pro du rugby, mais il y a d'autres sections et il y a d'autres grands champions. Et pour moi, aujourd'hui, il fait partie de la légende du sport français et du club. Il y a eu Marie-Jo Pérec, Guy Dru, etc. Et plein d'autres dans ce club. Et pour lui, il a porté, il a symbolisé aussi ces années-là, c'est-à-dire de 97 à 2009 peut-être, voilà, ouais. Avec tous les titres, les 5 titres qu'ils ont remportés. Et il symbolisait aussi cet esprit guerrier qu'a très bien décrit Daniel. Et voilà, j'ai eu parfois la chance dans mon métier de journaliste d'être au bord du terrain sur ces grands matchs. Il dégageait quelque chose d'explosif, mais de rare, et surtout ce côté décisif qu'il avait et qui était assez rare vu son gabarit dans un rugby qui à ce moment-là, on va dire, s'est développé avec des molosses. Et lui, il était parfois plus fort et plus rugueux qu'eux.
Ouais, c'était un battant, en fait, hein, un vrai Daniel Herrero et Christophe Dominici. Quand on le voyait, il ne lâchait pas, quoi. C'est ça qui est terrible, quoi. Il a lâché la vie alors qu'il ne lâchait rien sur un terrain.
Absolument. Alors cette remarque, Patrick, elle nous sensibilise parce que il renonçait pas, tu vois, il savait pas dire non, quoi. Mmh. Lui, il était incroyablement fidèle à l'amitié, c'est-à-dire avec ses partenaires. En cela, il était un homme rare là aussi, quoi. Mais en même temps, dès qu'il rentrait dans l'espace du jeu, pour ne pas dire dans l'espace de l'affrontement, le terrain, quoi, le match. Ouais. Il dégageait comme ça, il avait cette énergie combative, tu dis, c'est un battant, ouais. Plus qu'un battant, non. Ouais. Alors brave, quoi, brave, tu vois, presque, j'aime pas le mot de guerrier qu'il propose dans le champ du sport, mais il avait cette énergie mais incroyablement féroce, qui plus est, il était sévère, hein, très sévère, une nature explosive, y compris dans la dangerosité, il était un peu sauvageon, hein. Et tout, tu vois, il avait cette puissance d'énergie-là, et comme en même temps, il avait aussi le trait de la gentillesse, tu vois, de la gentillesse humaine, quoi. Il était incroyablement fidèle en amitié, incroyablement fidèle à ses partenaires.
Il avait un palmarès énorme, on n'en parle pas beaucoup.
Oui, voilà, un énorme palmarès. Il essayait encore de rebondir. Il avait, François Trio, essayé de relancer un projet de rugby du côté de Béziers. Hein, et là, il a échoué ces derniers temps. Ça lui a peut-être un peu marqué, quoi, aussi.
Oui, mais moi, ce que j'ai aimé dans son après, parce que l'après, il n'est pas forcément aussi linéaire que sur le terrain. Et l'après, c'est l'engagement qu'il y a mis. Et c'est le même, hein, que celui qu'on décrit là sur le joueur qu'il était. Voilà, entraîneur, il y est allé à un moment où le Stade français était en déclin. Et il y est allé, il n'a pas fait de calcul sur son image. Il aurait pu. Voilà, c'était un grand joueur. Et c'est pareil dans le projet Biterrois. Je ne connais pas tous les contours de ce projet. Mais il s'y est engagé. Moi, je me souviens qu'à l'antenne l'an dernier, j'étais à côté de Christophe, enfin Christophe Pogny était avec nous, Christophe Pogny est très proche de Christophe, et on le voyait médiatiquement s'engager au point de, voilà, si ça marchait pas il se grillait, quoi, et il y est allé au bout, et avec sa même générosité, la même que celle qu'il avait sur le terrain, et pour ça quand on parle de sa générosité, ben voilà, moi c'est ce que je garde de cet homme là ses fragilités, bon, c'est les siennes, mais surtout son sourire, hein. Voilà, sa gentillesse, ça, je suis d'accord avec Daniel, et puis aussi son engagement, sa passion, parce que ce qu'il a fait pour Béziers, bon, il a peut-être échoué, mais en tout cas, il y a mis une énergie incroyable.
Oui, absolument. Merci. Bon, et samedi, il y aura donc un hommage avec l'équipe de France face à l'Italie. Évidemment, Fabien Galthié, qui a joué avec lui, l'a dit ce matin et dès hier soir. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Daniel Herrero,
François Trio,
on vous retrouve ce week-end. Dans un instant, un peu ému aussi, évidemment, par cette disparition de Christophe Dominici. Hein. Je pense que ça touche énormément de monde, au-delà, évidemment, du monde du rugby. Dans un instant, donc, les annonces d'Emmanuel Macron, vues par le terrain, avec beaucoup de gens en ligne avec nous.
Vous pouvez nous appeler, hein, bien sûr, toujours 0826-300-300. On revient dans un instant, il est 9h18.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et après les annonces d'Emmanuel Macron, on part sur le terrain ce matin dans le petit déjeuner de l'actu. Les coiffeurs rouvrent ce week-end avec Thierry Ramat ce matin, qui est coiffeur à Toulouse. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, donc on est avec vous, on est aussi avec une fondatrice d'une salle de sport, Sandrine Retailleau, qui est avec nous, et on va aller aussi dans les Pyrénées avec le directeur de l'office de tourisme de Cotterêts, parce qu'on a l'impression quand même que c'est la douche froide, la douche glaciale pour les stations de sport d'hiver. Tout d'abord, vous, Thierry Ramad, vous allez pouvoir rouvrir ce week-end. C'est une bonne nouvelle, même si tous les commerçants ne sont pas satisfaits, c'est quand même une bonne nouvelle, et vous allez mettre en place un protocole sanitaire bien précis ?
Mais oui, on va mettre un protocole sanitaire bien précis. Déjà, il était déjà très très précis. Ouais. On ne pouvait pas faire beaucoup. Donc, on nous demande de faire beaucoup, encore plus. Donc, imaginez travailler dans 8 mètres carrés, recevoir des gens. On ne va pas pouvoir recevoir tout le monde. On a un chiffre d'affaires qui est nul.
Ouais. Comment vous allez faire, justement? Parce que c'est vrai que pour respecter ces 8 mètres carrés, je ne connais pas votre salon qui est du côté de la place des Carmes, je le dis en passant.
Oui, il fait 30 mètres carrés à peu près, on va dire 27 mètres carrés, comme ça.
À 30 mètres carrés.
Ah oui. Donc combien de clients?
Mais, voilà. Alors après, il est disposé de telle manière que on a mis des plexiglas, il y a le gel hydroalcoolique, il y a tout, il y a le masque. Donc on avait déjà fait beaucoup, beaucoup, faire plus, impossible. J'étais effondré sur cette deuxième blocage, j'imaginais même pas, le lendemain, même pas, ou le soir, je regardais les médecins qui disaient, mais on ne comprend pas comment les salons de coiffure peuvent être fermés, le problème que les médecins disent, enfin, moi je parle en tant qu'artisan, en tant que commerçant, c'est le geste barrière. Donc, on a le gel, on a les masques, on ne peut pas faire plus. J'écoutais vos émissions juste un peu avant, toutes ces grandes surfaces ouvertes, tous les gens qui circulent les uns sur les autres, on nous prend pour des débiles, quoi. J'avoue, tel que je pense. Ouais. Je dis depuis 2 mois maintenant. Quand notre président m'a dit c'est une guerre, moi je pensais qu'un mec comme une guerre, le général de Pantin, il nous aurait dit bon, on fait ci, ça, ça. Là, il n'y a rien du tout. Rien de fait, quoi. On a des petits mecs à cravate qui me disent il faut faire ci, il faut faire ça. Ouais. Moi, je veux des équipes de rugby, au Stade Toulousain, il y avait le leader, il fallait le suivre. Si tu ne le suivais pas, tu ne jouais pas. Ouais. C'est bon, moi, je viens d'entendre Christophe Dominici, c'est un leader, leader naturel. Donc, qui c'est que vous sentez qu'un leader dans ces gens-là? Moi, je suis désolé, je ne veux pas faire la mauvaise langue. Mais c'est vraiment une triste réalité.
Ouais, mais Thierry, comment vous allez vous organiser concrètement? Alors, les gens vont devoir réserver pour venir chez vous et tout, parce que 30 mètres carrés, j'ai calculé, ça fait 4 personnes. 4 personnes, ça comprend vous aussi, et puis éventuellement les salariés, les employés. Donc, c'est pas jouable. Si vous respectez à la lettre, c'est quand même extrêmement difficile, quoi, non?
Mais voilà, vous l'avez dit. Donc, écoutez, moi, je vais vous donner un micro pour parler, et puis Cécile, on ne va pas lui donner, il faut que vous parliez tous les deux.
Ouais,
vous avez une distance à respecter. Ouais. Donc, possible ou pas possible, c'est pas possible. Donc, on va faire du mieux possible.
Ouais.
On va faire les gens les uns après les autres. Il va faire 2 degrés dans la rue, donc forcément, on va faire attendre les gens 2 degrés, donc ils ne vont pas venir. Donc voilà, mais après, nous, on va jouer le jeu. Nous, on est artisans. Nous, on aime ce qu'on fait. On va pas se lever le matin et on va dire, ah, on va au boulot, non, on va se lever avec plaisir, on va travailler jusqu'à 70 ou 75 ans parce qu'on n'a pas les moyens d'autres, on n'a pas de vacances, on n'a pas de RTT, on n'a pas de congé payé, on n'a pas tout ça, donc voilà, soyons...
Vous allez élargir les heures d'ouverture un petit peu et rester si possible aussi, par exemple, le dimanche, je ne sais pas si vous pourrez le dimanche, mais a priori peut-être,
bien
non
sûr, on peut travailler la nuit, si je veux travailler la nuit, je travaille
la
nuit.
Le
truc, si on veut ouvrir, il faut ouvrir.
Ouais.
Il suffit d'ouvrir le matin de bonne heure, et bon, là, après, on ne pourra pas ouvrir jusqu'à après 21h, donc on va tenir des horaires. Le dimanche, si je veux ouvrir, je peux ouvrir. Si moi, je veux ouvrir, je peux ouvrir tout seul. Rien ne me l'impose de ne pas ouvrir. Moi, je suis croyant, donc je vais à la messe le dimanche.
Ouais.
Je rencontre le bon Dieu, donc... c'est vrai, voilà. Le jour où Thomas fait Seigneur de ses fiancés.
Ouais.
Thomas vous le dit, ou François Triot, il vous le dira.
Ouais.
Donc, le truc, c'est que il y a des choses qui sont complètement... On parle du Stade Toulousain, un stade de 20 000 personnes, on ne peut pas mettre 3 personnes. Une place sous 3, c'est ridicule.
Ouais.
Et les mettre à 30 personnes, un quart.
Sur l'Église, ils vont, Emmanuel Macron, finalement, là, après la colère de l'épiscopat, là, ce matin, il est en train de réfléchir et ils vont probablement revoir, en fait, les choses, parce que c'est vrai que...
Il faut adapter en fonction de l'édifice.
Bah oui, 30 dans une cathédrale, ça sert pas autant dans une...
C'est ridicule, parler à Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, sur 20 000 personnes, on peut mettre une place sur 3, au pire, je sais pas. Les gestes, on a le masque, le gel hydroalcoolique, on l'oblige, même le Stade Toulousain, le péral, je suis presque persuadé, et tout le monde doit l'avoir. C'est pas des bonnes solutions.
Ouais. Thierry, restez avec nous parce que on a d'autres personnes aussi avec nous. Sandrine Retailleau, vous êtes fondatrice de la salle de sport Paris Reebok, hein, donc toutes les salles de sport. Qu'est-ce que vous avez compris dans ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir? Vous êtes encore paralysée, si je puis dire, jusqu'au 20 janvier, c'est ça?
Oui, bonjour. Oui, bonjour. Malheureusement, oui, nous allons devoir attendre le 20 janvier, si tout se passe bien. Ça veut dire que les salles de sport, nous allons rester fermées 6 mois de l'année sur 2020. Ouais. Il va falloir encore attendre le 20 janvier pour avoir la certitude de rouvrir. Donc 6 mois, vous imaginez que c'est énorme. Ça veut dire qu'on a plus de 50% de manque, de perte de chiffre d'affaires. Et malheureusement, les mesures de compensation de soutien ne sont pas du tout à la hauteur.
Le plan de soutien. Alors, est-ce que vous allez être concerné Non, vous n'allez pas être concerné par le plan concernant le chiffre d'affaires, enfin les aides à hauteur de 20% du chiffre d'affaires annuel. Vous allez être concerné ou pas?
Nous allons être concernés. Donc, c'est une amélioration par rapport au fonds de solidarité. La seule chose, c'est que ça vient très tardivement. Il faut savoir qu'une salle de sport en moyenne, c'est 1000 mètres carrés. Donc, nous avons des loyers, des charges structurelles qui sont très importantes. Le loyer, c'est 30% du chiffre d'affaires. Donc, quand vous restez fermé pendant 6 mois de l'année et que c'est juste sur la dernière partie de l'année qu'on vous propose un accompagnement un peu plus à la hauteur du manque à gagner que vous avez eu pendant toute l'année 2020, c'est une amélioration, certes, mais c'est loin d'être suffisant. Oui. C'est loin d'être suffisant.
Sandrine, vous craignez une perte d'abonnement de gens qui iraient ailleurs ou autrement ou qui ne viendraient plus chez vous après?
Alors oui, c'est tout le sujet, c'est que plus la fermeture s'éternise, plus les gens ont tendance non seulement à suspendre, mais à partir. Alors nous avons la chance d'avoir une clientèle qui a été très fidèle, très solidaire. La seule chose, c'est que déjà pour garder sa confiance durant le premier confinement, nous avons pris la décision de suspendre leur abonnement, enfin leur règlement, de façon à faire en sorte d'être commercialement à l'écoute de leurs attentes. Donc nous avions suspendu tous les prélèvements durant le premier confinement, on leur avait proposé des offres alternatives, donc du sport en digital. Et puis à partir du deuxième confinement, là on leur propose tous les mois de faire le choix. C'est-à-dire qu'on demande à nos membres de faire le choix soit de suspendre, soit de maintenir leur prélèvement, tout ou partie, de façon à leur proposer d'être solidaires. Mais c'est évident qu'au bout de 6 mois, on a une partie non négligeable de nos membres qui suspendent, et c'est bien normal, une partie de leur règlement. Et donc c'est très compliqué pour les salles de sport de tenir avec 6 mois de fermeture sur une année complète, et en plus d'attendre le 20 janvier, parce que on nous a donné un coup d'arrêt sur la rentrée de septembre qui est décisive pour nous. Les salles de sport, elles font leur rentrée en septembre et en octobre. Et la deuxième période importante, c'est janvier. Ouais. Et on nous demande encore d'attendre jusqu'au 20 janvier.
Bon. Oui, alors il y en a tellement qui piaffent que peut-être qu'ils reviendront justement en 20 janvier, en espérant que les choses s'améliorent, parce que c'est quand même aussi suspendu à la situation sanitaire du moment, quoi, et il y aura sans doute un nouveau point d'étape, hein, bien sûr, quoi.
Tout à fait.
Vincent Doutre est avec nous aussi, directeur de l'office de tourisme de Cotterêts, responsable commercial de la station. Bonjour Vincent Doutre.
Oui, bonjour.
Avant-hier, nous étions avec l'un des responsables, hein, chez vous, du côté de Cotterêts, et on a eu en fait d'autres personnes aussi dans les stations de ski, qui espéraient quand même qu'il y ait une possibilité d'ouverture. Ça n'a pas été très très clair en fait hier soir. On a l'impression que vous n'allez pas pouvoir ouvrir, mais il y aurait peut-être des discussions quand même avec Jean Castex et puis les services en fait du gouvernement d'ici jeudi, vendredi. Qu'est-ce que vous avez comme information, vous, ce matin?
Oui, écoutez, on est typiquement dans l'entre-deux ou dans le flou que vous évoquiez, c'est-à-dire que la veille même, donc lundi, les représentants des domaines skiables de France étaient en discussion avec les membres du gouvernement pour justement faire valoir les différents protocoles et les affiner avec les responsables sanitaires et les ministères concernés par les stations de ski. Oui. Donc on est toujours dans cette période avec une décision définitive qui normalement doit intervenir début décembre. Donc on sait qu'on avait une date avant le 5 décembre pour avoir un go officiel ou une décision, ou du moins un acte officiel d'ouverture ou non. Bon, on a tous entendu hier la perception, le sentiment du président sur les stations de ski. Donc on a, comme tout le monde a entendu, pris une douche froide sur cette annonce du président Macron. Après, on est toujours en cours de concertation et de discussion avec les représentants du gouvernement et les représentants des domaines skiables de France. Bon, faire valoir nos protocoles.
Quels sont les arguments que vous pouvez mettre sur la table pour essayer de les convaincre de vous laisser d'ouvrir, en fait? Moi, j'ai vu que du côté de la Suisse, de l'Autriche, ils vont ouvrir quand même, là. Ils sont déjà ouverts en Suisse, quoi.
Oui, voilà. Donc, on a entendu hier qu'il y avait une concertation au niveau européen. Mais en même temps, on entend que l'Autriche et la Suisse ont déjà acté des ouvertures. On sent que ça bouge. Bon, l'Italie était sur une position plutôt de fermeture. On sent qu'en Espagne, c'est plutôt sur de l'ouverture. Donc, si on veut harmoniser les prises de parole et les décisions, là, on est typiquement dans un flou. Donc, de notre côté, on est plutôt à faire valoir toujours nos arguments. On a travaillé depuis cet été, je vous en parlais lundi matin, différents protocoles. On a une forte responsabilité sociale, économique et sanitaire, évidemment. Donc, on a pris tous ces paramètres en considération, mais il faut savoir que au-delà juste de la perte de chiffre d'affaires pour une station, hein, cette période, celle de décembre, elle concerne à peu près 25% de la recette du domaine skiable sur l'année. Mais si on regarde, on a des répercussions qui sont bien plus larges. On a beaucoup d'activités ou beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de professionnels qui vivent de l'activité de la station. Ouais. Et donc c'est vraiment ça serait une très mauvaise nouvelle pour le tourisme de montagne.
Les carottes sont pas encore complètement cuites, hein, pour reprendre l'expression de l'émission d'André Bercoff, parce que vous attendez jusqu'à jeudi, vendredi, enfin demain, après-demain, il y aura peut-être une décision. Et les gens qui, pour l'instant, n'avaient pas réservé en fait la clientèle, quoi. Ils étaient en stand-by, non ?
Bon, on a souvent des résidents secondaires ou des vacanciers qui ont un pied à terre ou un point d'accroche sur la station qui généralement a prévu si la circulation a été permise à partir du déconfinement. Donc c'est le cas. De nous faire une petite visite. Après, c'est sûr que les réservations étaient un peu suspendues dans l'attente d'avoir un peu plus de visibilité. Donc les annonces d'hier soir, elles ont des répercussions pour évidemment la fin d'année, mais elles ont des répercussions qui sont plus larges et plus durables sur le reste de l'hiver. Ouais. Donc on introduit toujours un trouble ou une certaine réticence, et c'est vrai que plus on tarde à faire savoir ce qu'il en est pour les domaines skiables, plus on parasite et on perturbe le reste de l'hiver.
Écoutez, on va attendre. Merci, hein, Vincent Doute de Cotteret, d'avoir été avec nous. Sandrine Retailleau est également de la salle de sport Paris Ribaud, qui est Thierry Ramad, coiffeur en fait à Toulouse. Dans un instant, on va continuer. Vous pouvez continuer aussi de réagir, hein, bien sûr, 0826 300 300, et on va parler d'une histoire assez incroyable, très touchant.
Le parcours d'une famille, hein, un papa, maman, deux enfants, trois enfants aujourd'hui, SDF, pendant 7 ans. On revient, ça s'appelle Ma famille avant tout, aux éditions Max Millau. À tout de suite.